Il a été très clair dans deux dimensions. D'une part, pour condamner et pour laisser absolument aucune ambiguïté sur le fait que c'était des crimes effrayants et que c'était absolument indispensable que l'Église se saisisse de tous ces problèmes, on va dire jusqu'à la racine. Dans la lettre qu'il a écrite aux catholiques d'Irlande, il met en valeur les difficultés qu'il y a eu au sein de l'Église de se confronter à ces problèmes. Hein. Il y a eu des cas qui ont été couverts de manière scandaleuse. Donc le pape là-dessus, il a été, on va dire, il est impitoyable. Il dit ça ne peut plus durer. Et en même temps, je pense qu'il a été capable de reprendre ça sous un angle spirituel en disant, ben voilà, l'Église traverse une phase de purification et c'est aussi l'occasion pour nous de faire un examen de conscience, de nous repositionner devant Dieu et de réellement demander son pardon. Enfin, je pense notamment à tout ce qu'il a dit à Fatima en disant que les ennemis de l'Église n'étaient pas à l'extérieur, mais ils sont au sein même de l'Église quand ils pêchent. Je pense qu'il a eu un bon positionnement par rapport à certains au sein de l'Église catholique qui disaient, mais une fois de plus, nous sommes attaqués par les ennemis de l'Église.
Et selon vous, comment est-ce qu'a été perçu ce message à la fois par les fidèles et par le grand public?
Par les fidèles, je pense que les choses ont été bien reçues, d'autant plus s'ils sont bien informés de ce qui se passe au sein de l'Église. Dans un public plus large, je ne sais pas si les gens sont toujours de bonne foi par rapport à tout ce que le pape peut dire autour de la pédophilie. Moi, j'ai été très frappé quand je suis allé en Angleterre mi-septembre dernier. Les médias étaient quand même très hostiles à la venue du pape. Il y avait notamment des journalistes qui disaient, mais est-ce qu'il va enfin parler? C'est d'une incroyable mauvaise foi. Ces journalistes, théoriquement, doivent être informés et savoir que depuis 3 ans, le pape ne fait que rencontrer des victimes chaque fois qu'il le peut, dire des choses très claires sur la pédophilie. Donc, je ne suis pas sûr que dans le grand public, les gens et totalement entendu le message du pape.
On a beaucoup parlé cette année avec le synode dédié au Moyen-Orient des actes de violence contre les chrétiens, Irak, Pakistan. Le pape a parlé pour la première fois de christianophobie. Qu'est-ce que Benoît XVI propose face à ces actes de violence?
Sa ligne de défense, elle est de se positionner très largement au-dessus de la mêlée en disant défendons la liberté religieuse pour tous. Il ne plaide pas pour une sorte de vision communautariste des choses. Et puis, il a aussi mis le doigt sur des formes, que je le cite, hein, plus silencieuses et plus sophistiquées de préjugés et d'opposition qui visent les chrétiens, et là, il vise effectivement l'Occident. Hein. Et c'est intéressant parce qu'il nous fait aller plus loin, il nous fait réfléchir aujourd'hui à une position nouvelle des chrétiens, et je pense qu'on va devoir tous inventer, en particulier les catholiques, de comment on se positionne par rapport à cette hostilité. Et le positionnement de Benoît XVI, il est clair, c'est d'abord celui de la fidélité au Christ, qui subit sur la croix, on va dire, l'hostilité, et qui s'y confronte. Je pense que le pape ne dit pas il faut partir en guerre d'aucune manière, mais quelque part, il pose le problème et il dit voilà, il faudra qu'on résolve ce problème-là tous ensemble, toute la communauté humaine.
De ce point de vue-là, le discours de Westminster prononcé par le pape devant le gratin britannique est un bon indicateur.
Et là, il a fait un discours en tendant la main à ces hommes de bonne volonté, en disant mais vous ne pouvez pas construire la démocratie, vous ne pouvez pas construire une société juste sans référence à la transcendance. Si les droits de l'homme ne sont pas ultimement fondés en Dieu, ils sont très fragiles. C'est-à-dire, le consensus aujourd'hui démocratique, s'il n'est pas référé à une transcendance, est fragile.
Cette année, on a vu d'ailleurs récemment un religieux chinois devenir le numéro 2 de l'évangélisation des peuples. On a vu la création d'un conseil pontifical pour une nouvelle évangélisation. Est-ce que ça, c'est le constat d'un échec ou c'est une perspective d'avenir?
Moi, je crois que c'est la prise en compte du réel. La nomination donc de ce Chinois, c'est une manière de dire, bon, ben, il y a l'Asie aussi, qui est quand même le continent le plus peuplé. Je pense que la Chine est aussi un des pays où l'Église catholique a la marge de progression la plus grande en Asie. Et puis le dicastère de la nouvelle évangélisation, c'est une manière de ne pas se contenter d'un discours fataliste sur le fait que l'Europe est n'est plus majoritairement chrétienne dans ses valeurs, dans sa culture, d'une sorte de discours comme on entend parfois en Europe, chez nous, ah ben il y aura plus de prêtres ou il y aura plus de chrétiens, etc. Le pape dit non, il n'y a pas de fatalité dans ce domaine. Il faut repartir au travail et puis peut-être à partir du moment où on crée effectivement un dicastère qui parle de nouvelle évangélisation. Du coup, eh ben, on se positionne mentalement, j'ai envie de dire, et spirituellement, pour vivre autre chose qu'une sorte de déroute subie et fataliste.
Cette année, il y a eu un autre phénomène rare. Le pape a publié un livre d'entretien avec un journaliste. Est-ce que, avec son livre, on est là dans à nouveau une manière de faire passer un message? Est-ce qu'on est dans un acte courageux de communication, comme a dit le père Lombardi? Ou est-ce que Benoît XVI a besoin d'être aimé et compris?
D'une part, cet accès courageux de la part du pape de donner de son temps à un journaliste, sachant que le résultat d'un livre d'entretien, c'est forcément partiel. Ça n'a pas la plénitude d'un discours dont les mots sont pesés, préparés, etc. Et en plus, ce livre a retenu particulièrement médiatique les propos autour du préservatif. Sur le fond, la position de l'Église n'a pas changé. Ce qui est différent, c'est que le pape communique, on va dire, urbi et orbi, sur le fait qu'il y a un écart entre la morale chrétienne, qui est défendue par le magistère, et puis la manière dont l'Église ensuite gère pastoralement, dans l'accompagnement spirituel, des cas limites. Quand on est catholique pratiquant, on sait que ça existe, parce qu'on sait bien que ce que le prêtre dit en chaire, c'est pas forcément ce qu'il vous dit quand vous êtes confessionnal. Sauf que là, le pape, il a communiqué sur le fait qu'il y avait un écart, et c'est la première fois qu'un pape fait ça. Sachant que le but du jeu, c'est quand même de se rapprocher de ce que dit le magistère.
Est-ce que vous avez l'impression que Benoît XVI est encore dans l'ombre de Jean-Paul II, ou est-ce qu'au contraire, il s'est émancipé, qu'il a une vision pour son Église?
Moi, je pense qu'il a une vision qui est très proche de celle de Jean-Paul II, qui était de reconduire l'Église catholique, on va dire, à ses fondamentaux. Mais je pense qu'il rend service à l'Église en permettant à ce que la papauté soit quelque chose de beaucoup moins personnalisé. C'est-à-dire que Jean-Paul II avait ce côté un peu star. Au niveau de la communication, il était très fort. Bon, le pape Benoît XVI, c'est quelqu'un qui est un peu a contribué à crever la bulle médiatique qui s'était créée autour du catholicisme à l'occasion du pontificat de Jean-Paul II.
Pour vous, c'était important de crever la bulle, pour reprendre votre expression ?
Mais oui, parce qu'en fait, dans les années 60, avec le Concile Vatican II, il y avait une sorte de bulle qui avait commencé à grossir, où quelque part, les catholiques étaient heureux qu'on les regarde de manière positive et qu'on les valorise, si vous voulez, de manière un peu narcissique. Alors déjà, avec Jean-Paul II et ses prises de position sur la culture de mort de notre société ambiante, déjà, la bulle s'était un petit peu ramollie. Mais comme c'était un grand personnage charismatique, disons qu'il avait réussi à maintenir la bulle assez forte, la bulle médiatique. Bon, Benoît XVI, c'est pas du tout quelqu'un de médiatique. Et donc, quelque part, la bulle a crevé. Et puis, notre société est de plus en plus délirante sous bien des aspects. Donc le pape, à un moment, il est obligé de dire « moi, je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Le relativisme, c'est plus possible. » Et à un moment, il faut aussi dire des choses dans la vérité. Je pense que c'est le mot qui va dominer ce pontificat lorsqu'un jour, on en fera le bilan ultime. Donc c'est peut-être plus difficile, quand on est un catholique de base, d'assumer l'image de Benoît XVI qui n'est pas celle d'un pape super charismatique et d'un pape qui dit des choses pas forcément agréables. Mais je pense que sur le fond, il est dans le vrai. Voilà.